Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 15 novembre 2024. Voici le sommaire. Au Sénégal, quelques 7,3 millions d'électeurs se rendent aux urnes dimanche pour choisir leurs députés. Ce scrutin va déterminer si le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko auront une majorité pour mener leurs réformes. Les Gabonais sont appelés à voter demain samedi pour ou contre une nouvelle constitution issue d'un dialogue national et proposée par les militaires qui ont renversé Ali Bongo en août 2023. Ici aux États-Unis, les spéculations vont bon train sur la future politique intérieure du président élu Donald Trump, qui a annoncé qu'il comptait nommer la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, au poste de ministre de la Sécurité intérieure.
Nous allons devoir fermer ces frontières et ne pas laisser les gens entrer dans notre pays. Nous voulons que les gens reviennent, mais nous devons les laisser revenir. Mais ils doivent entrer légalement.
Reportage à suivre dans la partie magazine, en deuxième partie de cette édition. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec John Lindon et les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Au Sénégal, quelques 7,3 millions d'électeurs se rendent aux urnes dimanche pour choisir leurs députés. Ce scrutin va déterminer si le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko auront une majorité pour mener des réformes promises pendant la campagne électorale. Nani Talani.
Les électeurs sénégalais choisiront 165 députés pour 5 ans. Parmi les figures politiques majeures, l'actuel patron de la primature, Ousmane Sonko, l'ancien président Sall, qui conduit à distance la coalition Takou-Walou, Barthélémy Diaz, maire de Dakar, ancien allié de M. Sonko et tête de liste de la coalition Sam Sakadou, et Amadou Ba, dernier premier ministre de M. Sall et son dauphin désigné à la présidentielle, mais qui conduit actuellement la coalition Jam'ak Njarin, éloigné de son ex-mentor. Aucune femme n'est tête d'une des 41 listes. Les Sénégalais devront décider s'ils confirment leur soutien au président Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre Ousmane Sonko en leur offrant une majorité parlementaire. L'exécutif a besoin d'une majorité des 3/5 pour réviser la Constitution, comme promis, sans passer par le référendum. L'opposition est dispersée malgré des coalitions. Elle met en garde contre un pouvoir trop hégémonique, soulignant des défis économiques comme le chômage et la dette, ainsi que des promesses non tenues.
Au Gabon, environ 860 000 électeurs sont invités à se déplacer demain samedi dans les 2800 bureaux de vote du pays pour approuver ou rejeter un projet de nouvelle constitution. La nouvelle loi fondamentale, fruit de contributions récoltées lors d'un dialogue national en avril, consacre entre autres un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois avec un régime présidentiel sans premier ministre. Plusieurs dispositions ne pourront faire l'objet d'aucune révision future. Parmi elles, la limite de 2 mandats présidentiels successifs, le mode d'élection au suffrage universel direct ou encore le mariage réservé à 2 individus de sexe opposé. Pour encourager la participation, les autorités de la transition ont donné 2 jours de congé à la population en amont du vote et autorisé les inscrits à changer de bureau de vote pour prévenir les possibles aléas liés au transport et à la météo en pleine petite saison des pluies. Ce référendum est une étape clé du retour à l'ordre constitutionnel promis par les militaires après leur coup d'État en août 2023. Au Rwanda, les autorités ont annoncé hier la fin de l'épidémie du virus de Marburg après qu'aucun nouveau cas de contamination n'a été signalé depuis près de 2 semaines. Claire Morin-Gibourg.
L'annonce a été faite par Sabin Nsanzimana, le ministre de la Santé rwandais. L'épidémie de Marburg au Rwanda est terminée, a-t-il déclaré lors d'une réunion en ligne de l'Africa CDC. Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui qu'il s'est écoulé presque 2 semaines sans signalement d'un nouveau cas et 1 mois sans décès lié à la maladie de Marburg. C'est féliciter le ministre. Par ailleurs, tous les patients traités pour le virus sont sortis des hôpitaux, a-t-il poursuivi. Les autorités rwandaises restent toutefois vigilantes et mènent une surveillance accrue des chauves-souris frugivores. Ces animaux peuvent transmettre à l'homme le virus de Marbourg qui fait partie de la famille des filovirus comme Ebola. Au total, Marbourg a fait 15 morts au Rwanda avec un taux de mortalité de 22,7%. 66 cas ont été enregistrés et 51 personnes contaminées ont survécu à la maladie. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement antiviral officiellement approuvé. Une campagne de vaccination avec un vaccin expérimental avait été lancée au Rwanda le mois dernier.
À Madagascar, 16 personnes, dont 2 enfants, ont perdu la vie lorsqu'un bout de falaise s'est écroulé sur un bateau amarré le long d'un fleuve dans l'ouest, selon les gendarmes. L'accident est survenu mardi soir sur les berges du fleuve Tiribina. Il y avait 26 passagers et 16 d'entre eux ont trouvé la mort, ont affirmé les gendarmes. Le bateau avait fait halte pour la nuit à quelque 320 km de la capitale Antananarivo pour permettre à ses passagers de faire une pause et de dîner dans un village, selon le journal L'Express Madagascar. C'est alors que l'éboulement a eu lieu d'un talus en surplomb. Parmi les passagers tués figurent une petite fille et un bébé. 4 appartenaient à la même famille et accompagnaient 2 morts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a entamé jeudi une tournée d'adieu en Amérique du Sud avec 2 sommets et un voyage en Amazonie. Les précisions avec Dilly Dico.
Pour sa tournée d'adieu, le dirigeant de 81 ans va tenter de consolider son héritage en matière de politique étrangère, de climat, d'immigration et de commerce. Le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, ou APEC, qui rassemble 21 pays réalisant 60% du PIB mondial, s'est ouvert hier avec une réunion ministérielle à huis clos. Les chefs d'État ou de gouvernement se réuniront à leur tour vendredi et samedi. Les dirigeants américains et chinois ont prévu de se retrouver samedi en marge de ce sommet. Dimanche, Joe Biden sera le premier président américain en exercice à visiter l'Amazonie lors d'un déplacement à Manaus, grande ville du Brésil au cœur de l'immense forêt tropicale. Xi Jinping, pour sa part, a prévu d'inaugurer avec la présidente péruvienne Dina Boluarte le nouveau mégaport de Chancay au nord de Lima. Financé par la Chine à hauteur de 3,5 milliards de dollars pour illustrer l'influence croissante de Pékin en Amérique latine, autrefois domaine réservé des États-Unis. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le chef de l'État russe Vladimir Poutine seront aux abonnés absents.
Une cour d'appel fédérale américaine a suspendu jeudi la procédure en cours contre Donald Trump pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche à la demande du procureur spécial Jack Smith. Le procureur spécial avait effectué la semaine dernière la même démarche dans l'autre procédure fédérale qu'il instruit à Washington contre l'ex-président pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020 afin de donner à l'accusation le temps d'analyser la situation sans précédent créée par l'élection de Donald Trump. Le ministère américain de la Justice a adopté depuis plus de 50 ans une politique consistant à ne pas poursuivre un président en exercice. La gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul, a promis jeudi qu'un projet controversé de péage urbain pour les véhicules automobilistes sera bien mis en œuvre à la fin de l'année dans le centre de la mégapole, juste avant l'entrée en fonction de Donald Trump qui s'y oppose. John Lindon.
La gouverneure de l'État de New York avait renoncé in extremis en juin à ce projet emblématique, le premier aux États-Unis, un abandon en forme de victoire pour les élus républicains locaux et l'État voisin du New Jersey, qui traduisait aussi la difficulté de s'en prendre aux automobilistes dans un pays où la voiture est toujours reine. Elle l'a relancé jeudi sous une forme édulcorée avec un tarif à $9 et non plus $15 pour les véhicules voulant circuler dans le centre de l'île l'île de Manhattan en promettant son entrée en vigueur en janvier 2025. Ce projet est destiné à réduire la pollution atmosphérique tout en finançant le métro jugé vétuste. Pour entrer en vigueur, le projet doit être entériné par l'administration Biden qui s'y est dite favorable. Le calendrier choisi par la gouverneure est censé empêcher que Donald Trump ne mette son veto une fois à la Maison-Blanche, comme il a promis de le faire pendant sa campagne.
En Haïti, un vent de panique a régné jeudi dans certaines zones de Port-au-Prince où des centaines de familles tentent de fuir les gangs qui ont pris la veille le contrôle du quartier de Solino. Ce quartier stratégique de la capitale est tombé mercredi sous le contrôle de Vive Ensemble, l'alliance de gangs formée en février et qui est parvenue à renverser le premier ministre Ariel Henry. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec John Lyndon.
Ethiopian Airlines donne des ailes à Air Congo. Selon Ecomatin.net, la compagnie aérienne africaine de référence va louer deux Boeing 737-800 pour le compte du nouveau transporteur congolais. D'après une source consultée par Ecomatin, cette décision vise à soutenir le lancement des activités d'Air Congo, dont Ethiopian Airlines est actionnaire minoritaire aux côtés de l'État congolais avec 49% de parts. La filière avicole camerounaise traverse une crise d'une ampleur sans précédent exacerbée par les épisodes d'influenza aviaire survenus en 2016 et 2022, ainsi que par la flambée des coûts des matières premières, notamment le maïs et les tourteaux de soja. Selon le site Ecomatin.net, cette situation dramatique menace la pérennité du secteur avicole et a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de production. Une note sur la situation de la filière émanant de l'interprofession avicole du Cameroun fait état de ce que le maïs, qui représente environ 50% de l'aliment complet pour les volailles, a subi une forte augmentation de prix.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Suite et fin ce vendredi des matchs de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Oui, le Mali affronte le Mozambique à Maputo, un match à grand jeu pour les Aigles qui, selon leur sélectionneur Tom Saint-Fiette, comptent arracher leur ticket de qualification pour Maroc 2025. Il faudra pour cela gagner ou faire un match nul. Gros choc entre le pays hôte, le Maroc et le Gabon. La Zambie reçoit la Côte d'Ivoire, champion en titre et déjà qualifié. Hier, le Sénégal a battu le Burkina Faso 1-0 au stade du 26 mars de Bamako pour reprendre la tête du groupe I. Les deux sont déjà qualifiés pour la phase finale. 0-0 entre la Guinée équatoriale et l'Algérie, tous deux qualifiés pour la phase finale. 1-1 entre le Bénin et le Nigeria. Les Guépards reprennent la deuxième place de leur poule devant le Rwanda, battu par la Libye 1-0. 4-0 pour le Niger face au Soudan. 1-0 pour le Lesotho face à la République centrafricaine, défaite 3-2 du Congo devant le Soudan du Sud. Résultat qui scelle le sort du groupe K en qualifiant indirectement l'Ouganda et l'Afrique du Sud pour Maroc 2025.
Direction le Sénégal maintenant, où le kickboxing gagne du terrain.
Oui, la discipline, encore pas très connue dans ce pays, attire de plus en plus de jeunes. Suivez. Torse nu, les muscles ultra saillants, le nouveau champion du monde sénégalais de kickboxing dans la catégorie des lourds, moins de 90 kilos, Mohamed Tafsir Ba, enchaîne les coups sur le tatami usé d'une caserne militaire de Dakar. Le manque de moyens ne l'a pas empêché de décrocher le titre fin septembre en Ouzbékistan, son premier mondial dans ce sport de combat qui compte de plus en plus d'adeptes dans le pays.
Je veux juste leur montrer qu'en étant sénégalais, en s'entraînant ici, on peut devenir une légende, on peut devenir un champion du monde.
Sa compatriote Ndeye Kadi Diallo a obtenu la médaille d'argent pour la deuxième fois consécutive en poids léger chez les moins de 60 kilos.
Ce n'est pas très facile de pratiquer ce sport en tant que femme. Il y a beaucoup de femmes qui refusent de faire ce sport. On me traite souvent d'homme, mais je n'y prête pas attention. Tout ce que je sais, c'est que j'aime le kickboxing et je veux me donner à fond.
Les résultats de ces deux champions mettent en lumière cette discipline apparue au Sénégal il y a une trentaine d'années et tirée par une poignée de passionnés qui s'investissent sans compter, malgré le manque de moyens. Dans cette salle vétuste, le coach Famoura Touré entraîne l'équipe nationale. L'ancien champion d'Afrique qui a découvert la discipline en regardant la star belge de films d'action, Jean-Claude Van Damme, fait partie des pionniers qui ont lancé le kickboxing au Sénégal à la fin des années 1990. D'après Yakia Diop, entre 2022 et maintenant, la Fédération sénégalaise de kickboxing a enregistré environ 6000 pratiquants dans une cinquantaine de clubs.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous maintenant, la partie magazine. En Mauritanie, un forum de haut niveau sur le pastoralisme s'est tenu dans la capitale Nouakchott du 6 au 8 novembre. Un rendez-vous au cours duquel a été dressé le bilan des réussites et des obstacles pour garantir un avenir durable au pastoralisme dans cette région de l'Afrique. Les précisions avec notre correspondant Mohamed Diop.
10 ans après la déclaration de Nouakchott, le CILS, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, dresse le bilan du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, soutenu par la Banque mondiale et son directeur régional, Shakib Yenan.
Nous avons vu la création de plus de 560 puits et points d'eau, l'établissement de 360 marchés pour le bétail, le développement de 4200 km de corridors pour le déplacement des troupeaux, la vaccination de 600 millions d'animaux et la gestion durable de plus de 11 millions d'hectares en zone pastorale.
Ce bilan est appuyé par Abdoulaye Mohamedou, secrétaire exécutif du CILS.
En termes économiques également, plus de 300 marchés de bétail ont été construits grâce à l'intervention des projets. Cela est important parce que ça facilite les transactions commerciales. Ça facilite également la collecte de la fiscalité locale pour les collectivités territoriales parce que la dimension économique va au-delà seulement de l'amélioration des revenus des producteurs, mais c'est pour toute l'économie locale et régionale.
Cependant, les défis persistent, notamment en matière de mobilité pastorale. Les jeunes ambassadeurs du pastoralisme, représentés par Doudé Issa Démon du Bénin, alertent sur ce problème.
Certains pays aujourd'hui se referment et cela renforce encore une certaine division, alors que le pastoralisme a pour mode stratégique pour pouvoir utiliser les ressources, la mobilité. Et cette mobilité est aujourd'hui confrontée à un problème.
Les participants recommandent aussi d'améliorer la gouvernance foncière pour apaiser les tensions entre éleveurs et agriculteurs, comme le souligne Aliou Dembakebe, directeur du programme Afrique de l'Ouest de Peace Nexus.
L'agro-business est en train d'occuper les espaces où les éleveurs passaient traditionnellement. Et c'est ce qui amène les heurts. Et l'autre chose aussi, c'est les ressources, c'est l'eau, principalement aussi, qui constitue un problème. Donc de plus en plus, ce sont ces questions principalement qu'il faut attaquer avant d'attendre les conséquences qui sont justement les heurts, les conflits et de plus en plus qui sont en train de prendre de l'ampleur.
Enfin, le secrétaire exécutif du CILS appelle à investir massivement dans la production fourragère pour garantir une alimentation animale stable et réduire la dépendance à la pluviométrie. Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Mali, la 5e édition du Forum régional de la jeunesse de Gorée Institute s'est tenue à Bamako les 12 et 13 novembre à l'école de maintien de la paix à Lyon Blondin Bay avec pour thème « Rôle et engagement des jeunes dans la gouvernance, la citoyenneté et la paix au Sahel ». Un forum qui a aussi planché sur le rôle des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Ils sont une cinquantaine de jeunes du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire à partager leur expérience et à s'inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres lors de cette 5e édition du Forum régional des jeunes organisé par Gorée Institute.
Une occasion de partager ce que nous faisons dans nos pays respectifs, de partager les expériences, de nous donner des idées afin que nous continuions à améliorer nos activités associatives, nos activités dans les partis politiques et pour solutionner les crises multiformes qui sévissent dans nos pays.
Fer de lance des changements de régime intervenus ces dernières années au Sahel, il s'agit pour les jeunes, passé le moment de la contestation, de revendiquer une implication plus active dans le processus décisionnel des différentes autorités de transition.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir aller au-delà de la contestation. Nous avions eu à contester un temps, nous avons abouti à un changement. Maintenant, c'est de voir comment est-ce que cette jeunesse peut être mobilisée pour qu'elle puisse également contribuer de manière active à ce changement pour qu'elle puisse se retrouver dans l'architecture qui est en train de se faire.
Pour Mokhtar Sy, panéliste et coordinateur de Génération Engagée, l'implication des jeunes au-delà d'une demande est une nécessité pour les autorités de transition.
Donc aujourd'hui, ce cadre sert à créer un échange entre les jeunes gouvernés et les gouvernants pour discuter des défis, des opportunités et définir les priorités. Maintenant, ce cadre sert à définir ces priorités-là pour les jeunes de ces trois pays qui sont confrontés à d'énormes difficultés.
Il s'agit aussi pour Gorée Institute, organisateur de ce forum, d'entretenir les jeunes sur leur rôle dans la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel.
Il y a beaucoup d'aspects qui doivent être pris en compte pour un peu augmenter l'implication des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Non seulement ils sont auteurs, je l'ai dit tantôt, ils sont aussi victimes. Maintenant, il va falloir maintenant que les États mettent en place des politiques qui permettent de prendre en charge maintenant la question de la jeunesse. Il ne suffit pas d'avoir du tout militaire pour lutter contre l'extrémisme violent. Les questions liées au développement, les questions liées à l'employabilité des jeunes, les questions liées un peu à la pauvreté sont des questions primordiales pour prendre en compte ces aspects-là.
Des recommandations fortes seront issues de ce forum afin d'inviter les autorités des pays du Sahel à faire de l'implication des jeunes une priorité. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao au Mali sur 92.9 FM.
Au Nigeria, la hausse des prix a contraint la population à trouver de nouvelles méthodes pour se vêtir. Les achats d'occasion, appelés localement okrika, connaissent un essor, offrant des options abordables. Gibson Emeka d'Abuja examine comment ce marché devient un recours pour de nombreux Nigérians. Le récit est de Thierry Kaoré.
Pendant des années, Agata Okwari, une femme d'affaires de 30 ans à Abuja, faisait ses achats dans des boutiques haut de gamme. Avec le prix des vêtements neufs qui ont presque doublé, elle s'est tournée vers les magasins de seconde main, car les vêtements d'occasion lui permettent de garder son style sans beaucoup dépenser.
Je suis passée de l'achat de vêtements neufs à l'achat d'occasion parce que, d'une part, en plus du coût, les vêtements d'occasion sont plus durables. Et j'ai découvert qu'ils sont plus résistants. Les vêtements neufs sont vraiment chers, bien plus que les vêtements d'occasion. C'est pour ça que j'ai changé.
Elle n'est pas la seule. Autrefois réservée aux personnes à faible revenu, la friperie est devenue populaire. Connue localement sous le nom d'Okrika, les marchés de friperie sont en plein essor de Lagos à Abuja. L'économiste Isaac Boti souligne que pour beaucoup, les magasins d'occasion sont la réponse à l'inflation et aux politiques qui les obligent à compter chaque dollar.
Ils font tout cela comme moyen de survie parce que le gouvernement ne les aide pas. La situation économique ne les aide pas. Les politiques du gouvernement ne sont pas favorables aux consommateurs. Donc c'est à la fois un moyen d'accès abordable pour le consommateur et un moyen d'augmenter les ventes pour les vendeurs.
Andrew Eze, 32 ans, a vu venir ce changement de mode. Lorsque les prix des vêtements neufs ont grimpé, il s'est tourné vers la vente de vêtements d'occasion sur le célèbre marché Okrika de Nyanya à Abuja.
À un moment donné, les prix des vêtements neufs sont devenus si élevés que beaucoup ne pouvaient plus se les permettre.
Des études montrent que le Nigeria importe chaque année plus de 500 000 tonnes de vêtements d'occasion. Mais même cette alternative ressent la pression, car la hausse des coûts d'importation pousse certains vendeurs de friperies à augmenter leurs prix. Pour Chris Olofou, cela signifie faire des compromis sur la qualité et le style pour contrôler son budget.
À l'époque où l'économie allait bien, on achetait dans des boutiques haut de gamme parce qu'on vivait un style de vie ostentatoire. Mais à cause des difficultés économiques actuelles, je dois maintenant adapter mes choix à mes moyens. Si la situation économique s'améliore, je devrais arrêter et revenir à mon style de mode habituel.
Les experts estiment que le shopping d'occasion restera populaire tant que les pressions économiques vont persister. Cette tendance affecte l'industrie textile locale du Nigeria en raison de la concurrence avec les vêtements importés à moindre coût.
Ici aux États-Unis, c'est le 20 janvier prochain que le président élu Donald Trump va prêter serment et entrer en fonction, mais il annonce déjà les membres de sa future administration et il a aussi annoncé mardi qu'il comptait nommer la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, au poste de ministre de la Sécurité intérieure, un portefeuille qui comprend notamment les douanes et les gardes frontières. À quoi pourrait ressembler la politique intérieure du président Trump pour les 4 prochaines années? Élément de réponse dans ce reportage de Caroline Presutti, raconté par Dilly Dico.
Le discours de victoire de Donald Trump lors de la soirée électorale.
Nous allons tout réparer dans notre pays et nous sommes entrés dans l'histoire pour une raison ce soir. Et cette raison sera justement celle-là.
La principale priorité du président élu Donald Trump est de régler la question de l'immigration.
Nous allons devoir fermer ces frontières et ne pas laisser les gens entrer dans notre pays. Nous voulons que les gens reviennent. Mais nous devons les laisser revenir, mais ils doivent entrer légalement.
Trump a conquis les foules lors de sa campagne électorale en promettant des expulsions massives visant des millions d'immigrés sans papier chaque année. Selon les experts, cela coûterait des milliards de dollars et nécessiterait une organisation et des délégations énormes dont aucun détail n'a encore été fourni. Mais le tsar des frontières, choisi par M. Trump, Tom Homan, a déclaré à l'émission 60 Minutes qu'il se concentrerait sur les lieux de travail et non sur les quartiers. La deuxième priorité est de résoudre le problème de l'inflation. Écoutons le vice-président élu J.D. Vance le soir de l'élection.
Après le plus grand retour politique de l'histoire américaine, nous allons mener le plus grand retour économique de l'histoire américaine sous la direction de Donald Trump.
Trump promet une politique de l'Amérique d'abord, avec des droits de douane sur les produits étrangers et aucune taxe sur les prestations de sécurité sociale ou les pourboires. Troisième priorité, réparer le gouvernement.
L'Amérique nous a confié un mandat puissant et sans précédent.
Dans le cadre de ce mandat, il a nommé Elon Musk propriétaire de Tesla et de SpaceX et Vivek Ramaswamy, ancien rival à la présidentielle, à la tête du prochain département de l'efficacité gouvernementale chargé d'examiner la bureaucratie et les dépenses. Le fait que le Sénat et la Chambre des représentants soient contrôlés par les Républicains garantira une confirmation en douceur des personnes déjà pressenties pour occuper les postes de secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, à la Sécurité intérieure, administrateur de l'Agence de protection de l'environnement, ambassadeur auprès des Nations unies, d'Israël et bien d'autres encore. Ce ne sont là que quelques-uns des 4000 postes gouvernementaux à pourvoir dans la nouvelle administration Trump. Dans moins de 70 jours, le président élu prendra ses fonctions et nous aurons une meilleure idée de son second gouvernement. Mais une chose est sûre, cette présidence sera radicalement différente des années Biden.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique. Rejoignez-nous dans l'Amérique et vous, votre dose hebdomadaire d'échanges culturels et de discussions informatives sur l'Afrique et les États-Unis. L'Amérique et vous, c'est chaque vendredi sur VOA Afrique.
Et c'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet www.voafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.